Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Jeanne Boursier sur Chronique d'un siècle. Cela fait bien longtemps que j'avais disparu des ondes, car mon monde s'était arrêté à celui des médecins, chirurgiens et hôpitaux pendant quelques mois. Que d'événements depuis, que de massacres d'innocents, que de bêtises, que d'argent public jeté par les fenêtres, que d'injustices commises, que d'intolérance, que de racisme. Aussi aujourd'hui, pas de chronique, car il me faudrait remonter à la décadence romaine pour faire un parallèle avec notre société. Lisez ou relisez le Satyricon de Pétrone, tout y est, à peu de choses près. Cette émission est aussi mon droit de réponse à ceux qui ont estimé que j'étais une fasciste après avoir écouté mon émission sur le wokisme. C'est donc de moi que je vais parler. Moi qui ne supporte plus aucun média, plus aucun gouvernement soutenant le génocide commis par Israël, la seule démocratie du Proche-Orient selon ces faquins de journalistes. C'est une franco-algérienne qui se cache derrière Jeanne Boursier. Française par ma mère, versaillaise catholique, algérienne par mon père, constantinois musulman. Tous deux respectueux de leur religion, de leur culture, ont vécu leur amour sans contrainte, sans interdit, au-dessus des qu'en dira-t-on du racisme, de la haine, de la bêtise. Je pense qu'il est temps maintenant d'écouter Mouloudji, autoportrait.
Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, alcoolique par mon oncle, dépravé par grand-père, sans classe par vieille honte, névrosé par grand-mère. Royaliste par ma mère, fataliste par mon frère, communiste par mon père, marxiste par mimétisme, hépatique par la guerre, ruiné par les sœurs-âmes, vieilli par la bonne chair, abruti par ses dames. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu. Fripon comme un matou, vertueux comme un principe, coureur comme un toutou, foutu comme l'as de pique, sensuel comme un caniche, modeste comme personne, dépravé comme un homme cabot comme un ministre. Double comme un notaire, jouisseur comme un avare, dur comme un militaire, tendre comme un buvard, ivrogne comme une basse, coureur comme un baryton, con comme un ténor et veau comme le veau d'or. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu. Cocu par ma moitié, brimé par ma concierge, haï par les voisins, détesté par les chiens, raté pour les affaires, ruiné par bonté d'âme, malheureux comme un âne, gâteux comme un fils père. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, royaliste par ma mère, communiste par mon père, raté par mes aïeux, athée, oh grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu.
Mes parents nous ont inculqué à mes frères et à moi deux cultures, celle de l'Occident et celle de l'Orient. connaître la littérature française, mais aussi la littérature arabe, connaître les apports de la civilisation arabe dans la civilisation occidentale et inversement, parler sans tabou de la colonisation des pieds noirs, des juifs d'Algérie, de la guerre d'Algérie, et non des événements comme certains osent encore nommer cette guerre. L'historien spécialiste de la guerre d'Algérie, Guy Pervillet, écrivait dans un article en 1983 « Les estimations les plus diverses continuent de s'affronter. Elles varient du simple au décuple, de 141 000 à 1 500 000 sur le nombre des victimes algériennes. Dans une question aussi grave, une telle incertitude est inadmissible. Il est temps de chercher à établir, sinon l'exacte vérité, au moins le chiffre le plus vraisemblable. C'est un des aspects du racisme d'État qui a fleuri sous la Troisième République et qui continue allègrement à s'épanouir aujourd'hui. Toute ma vie a été marquée par le racisme vulgaire ou distingué, peu importe. Il est là, dans le regard, les remarques, les examens, le travail. » Voici ce que j'écrivais il y a quelques années. Mon prénom à consonance maghrébine m'a valu des affronts, des humiliations, des échecs. Au théâtre, en droit, en histoire, en lettres classiques ou modernes, toujours la même question. Toujours l'étonnement de ne pas voir se présenter une maghrébine sortie tout droit de leur imagination de raciste qui s'ignore. Certains sont allés jusqu'à poser la question qui leur brûlait la langue. « Alors vous êtes une moitié-moitié, légèrement offusquée, malgré leur combat de mai 68, qu'une Française se soit mariée avec un indigène en pleine guerre d'Algérie. » L'affront le plus douloureux fut pour moi l'étonnement d'un professeur de littérature spécialiste de Flaubert lorsqu'il comprit que le nom maghrébin à qui il avait refusé l'examen était mon patronyme. À moi, l'étudiante qui participait à ses cours, qui l'admirait et avec qui un véritable échange s'était établi. Ce jour-là, je sus que jamais rien ne me serait accordé sans une lutte acharnée. Jamais je ne trouverais la paix. Comment le pourrais-je? Ceux que j'aimais et qui sont morts ont tellement souffert de cette haine du métèque, de ce mépris de l'étranger que les classes supérieures cachent sous un sourire crispé en s'esclaffant. J'adore les Algériens, comme ils diraient, j'adore les bergers allemands. Je me souviens de ce petit notable de province qui faisait une liste comparative des couscous qu'il mangeait. J'aurais dû être flatté, le mien arrivait en tête de peloton. Or, il y a quelques jours, de manière inattendue, j'ai trouvé dans une émission d'Apolline de Malherbe sur RMC l'improbable interview d'un homme de 45 ans d'origine maghrébine qui résume parfaitement ce qui est réservé à ceux qui ont le mauvais goût de porter un nom aux consonances arabo-musulmanes.
J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage.
D'accord.
J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Grégoire au lieu de mon prénom qui me renvoie à mes origines, on va dire un peu arabiques.
D'accord.
Et c'est surtout le rapport aux gens qui est complètement insupportable. Mmh. Il y a un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Mmh. Je suis blanc comme un cul et j'ai un nom à consonance arabique. Et j'en souffre encore aujourd'hui quand je me présente aux gens. Je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire, qui me permet en fait de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Mmh. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? C'est horrible.
J'avais 7 ans lorsqu'une camarade de classe me jeta à la figure cette insulte si courante, sale arabe. Suffoqué, je la traitais de sale juive, pensant ainsi clore cette dispute. C'était sans compter sur l'intervention de notre institutrice que cette gamine, avec quelques larmes, avait été trouvée pour me dénoncer. Une fois en classe, Madame Brioude me fit lever et sévèrement me rappela que l'on n'insultait pas ainsi ses camarades. Aussitôt, je rétorquai qu'elle m'avait traité de sale arabe. Et là, tranquillement, cette vieille institutrice me déclara que ce n'était pas la même chose. Nous étions en 1967, l'année de la guerre des six jours, année pendant laquelle le racisme anti-maghreb ou anti-arabe, comme vous voudrez, se porta comme un charme. Même le prétendument rebelle Gainsbourg écrivit pour Tsahal, l'armée la plus morale du monde, comme tout le monde sait, cette chanson que je vous laisse écouter, « Le sable et le soldat ».
Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai défendrai contre tout ennemi. Le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël. Sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides reculeront devant l'étoile de David. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël.
Gainsbourg a composé cette chanson comme un hymne. Cette même année, lorsque nous entrions dans un restaurant ou un café, ma famille et moi, les serveurs nous ignoraient et ne nous servaient pas. Nous devions alors quitter la table à laquelle nous nous étions installés. Et sous le regard méprisant de ceux qui, à peine un an plus tard, feraient leur petite révolution bourgeoise, nous sortions. Vous imaginez bien ce qui peut se passer dans la tête d'une petite fille devant tant d'injustices. D'autant que ce mépris, cette haine, ce racisme devaient me poursuivre, ou plutôt nous poursuivre, dans nos études. Un professeur avait orienté l'un de mes frères vers un CAP de technicien de grande surface quand elle avait appris qu'il désirait faire du droit. Elle lui avait expliqué, sans complexe, qu'un enfant d'Algérien ne pouvait réussir dans cette voie car notre famille n'avait ni le profil culturel, ni le standing socio-économique. Elle savait que notre père était Algérien, que notre mère était une de ces Françaises qui avait trahi son pays en épousant un félaga, cela lui suffisait à forger l'image de bougnoule conforme aux stéréotypes véhiculés par une société bien pensante. Une société qui n'a d'ailleurs pas changé depuis 57 ans. Je vous laisse écouter le discours à l'Assemblée nationale de l'ex-député Michel Taboureau.
La présidente, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Ces mots emplis de haine envers notre pays sont issus du troisième couplet de l'hymne national algérien. Le président Tebboune vient de généraliser son utilisation par décret, alors que ces paroles n'étaient prononcées que lors du congrès du FLN. Quel désaveu pour le président Macron, qui prétendait vouloir donner un nouvel élan à la relation entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas le premier camouflé. Le président algérien était attendu en France. Il a préféré se rendre en Russie pour renforcer son partenariat avec ce pays qui menace la stabilité du monde. Combien d'actes de repentance inutiles? Combien de vexations subies avec la reculade sur les visas et les ingérences dans nos élections? Combien de fois l'exécutif a renoncé pour s'attirer les grâces d'un pouvoir qui vit sur une rente mémorielle depuis 60 ans? Vous souhaitez normaliser nos relations avec ce pays, mais la France n'a récolté que mépris et affaiblissement. Mépris au travers d'un sentiment anti-français exacerbé. Affaiblissement diplomatique à cause de ce choix de nous tourner vers l'Algérie au détriment de nos alliés marocains. Oui, Madame la Première ministre, un hymne national qui désigne un pays comme un ennemi, c'est inacceptable. Alors allez-vous avoir une réaction à la hauteur de notre indignation? Allez-vous prendre des mesures fortes, telles que l'abrogation demandée par notre groupe de l'accord de 1968 qui facilite l'immigration algérienne en France? Allez-vous tout simplement reprendre le contrôle et donner à notre pays tout le respect qu'il mérite?
Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais je rappelle que le père de cette femme politique, M. Robert Tabarot, était l'un des chefs de l'OAS à Oran et un des membres fondateurs du Front Algérie française en juin 60. Mes parents, toujours au-dessus des préjugés, réagirent en envoyant mon frère dans une école privée. Il est aujourd'hui avocat. Voici un extrait d'Élise ou la vraie vie, un roman de Claire Etcherelli que Michel Drac adapta au cinéma en 1970.
Un thé? Oui. Moi aussi.
Moi, j'y foudrais une bombe atomique sur l'Algérie.
La bombe, moi, je suis pas d'accord.
On devrait ramasser tous les ratons qui sont en France et les foutre dans des avions. Et au-dessus de la mer, on tire les portes et plom ! Tout le monde dans la flotte.
Ne dis rien. Souris-moi. Faites comme si vous n'entendiez pas.
Mon fils est là-bas. Et c'est fumier ici, ça rigole. Et avec nos femmes.
Tu en partais.
Il y en a qui ne sont pas dégoûtés. Toutes des salopes.
C'est cela qu'endurèrent mes parents de la part des bonnes gens qui pensaient que la France avait apporté la civilisation en Algérie. Pourtant, au XIXe siècle, une femme, Julie Victoire d'Aubier, la première bachelière de France, écrivait dans son livre « La femme pauvre au XIXe siècle » « Nos soldats et nos colons ont aussi porté en Algérie les mœurs autrefois inconnues à la polygamie arabe. » L'horreur des musulmans pour la prostitution était si grande qu'à Alger, au XVIIe siècle encore, on jetait les prostituées à la mer. Aujourd'hui, les femmes qui vont chercher du travail dans notre colonie ne trouvent d'ordinaire leurs moyens de subsistance que dans la débauche et le concubinage. Des infortunées, soumises aux brutalités de notre soldatesque, sont troquées comme des bêtes de somme à chaque changement de garnison. Et l'on peut suivre notre armée à la trace de l'infection qu'elle laisse jusque dans les moindres villages. Après la conquête, les filles des anciens possesseurs du sol n'eurent même des moyens de subsistance que par l'ignominie. Cet aperçu suffit à démontrer combien nous sommes impropres à coloniser un peuple qui, selon le témoignage d'une autorité très haute et très compétente, a pris nos vices sans acquérir aucune de nos qualités. En effet, le code musulman, la religion et les mœurs israélites permettent sur le sol africain la polygamie, le divorce et la répudiation, avec l'obligation pour le père de nourrir tous ses enfants et la défense de répudier une femme sans assurer sa subsistance. Ces devoirs faisaient des mariages musulmans un privilège de la richesse. Je ne reviendrai pas sur la colonisation à laquelle j'ai consacré plusieurs émissions, mais j'ai trouvé sur Journal L'Humanité une interview datant de 2021 d'un monsieur, d'un Algérien de 91 ans, qui parle mieux que tous les discours.
Saïd Abtout, né le 28 janvier 1930 à Boudjima, à 17 km de Tixirt-sur-Mer et à 20 km de Tizi Ouzou. Nous, on était des indigènes, les indigènes n'avaient le droit à rien. Comme on a été la plupart des Algériens chassés des bonnes terres, chassés des endroits qui sont bien, qui sont occupés par les colons, les pieds noirs. Et nous, on est dans les montagnes, c'est aride, ben, c'était la misère, pieds nus. Je me rappelle, j'avais une djellaba pleine de poux et quand je suis trempé, quand il pleut, tout ça, je dormais avec cette djellaba, j'ai pas quelque chose de rechange. C'est vraiment la misère, quoi. On n'avait ni chauffage, ni toilette, ni rien du tout, quoi. On vivait avec des bêtes, d'ailleurs. Dans le même gourbi, il y a les bœufs et puis à nous, on partageait le gourbi. Il n'y avait pas de nourriture, surtout là, pendant la guerre 40. On mangeait de l'herbe, on mangeait des glands, on mangeait n'importe quoi, ce qu'on trouvait comme des bêtes. On était jeunes, c'est sûr, mais on n'était pas comme toutes les jeunesses. C'est une jeunesse indigène, une jeunesse de deuxième zone, une jeunesse qui vivotait, qui ne vivait pas. Donc voilà un peu la jeunesse, notre jeunesse. Malgré que j'ai eu une chance quand même, j'ai bénéficié de pouvoir y aller à l'école, parce qu'à l'époque, on scolarisait 10% de la jeunesse algérienne, enfin du moins chez nous, et les filles n'avaient pas le droit à l'école, il n'y avait pas d'école de filles. Et là, j'ai un peu profité pour aller pendant près de 4 ans à l'école. Et par la suite, quand mon frère a été mobilisé, j'étais obligé de... Le vieux, il était analphabète, donc il m'a fait quitter l'école pour aller garder les bêtes, quoi. Voilà un peu ma jeunesse, comment que ça s'est passé. Ma mère, elle s'occupait de travailler, aller chercher de l'eau, à faire à manger, nettoyer la cour là où dormaient les bêtes, tout ça. Elle est esclave un peu. Elle fait tout dans la maison. Quant au vieux, il était boucher itinérant et puis paysan. Il faisait l'agriculture, il faisait aussi boucher. C'est-à-dire qu'il allait sur les marchés, il abattait une bête et puis après il vendait la viande. Et c'est comme ça que d'ailleurs moi je suis devenu un grand crossman parce qu'il avait un mulet. Il montait sur le mulet, moi je faisais 30-40 km à pied, j'avais 10-12 ans. À chaque fois qu'il va au marché, des fois je montais derrière lui sur le mulet, mais j'étais mal à l'aise, alors je marchais souvent. Je faisais mes 30 km, 40 km. Alors après, je suis devenu un bon crossman. Avec les gens du village qui étaient politisés, nos aînés qui nous éveillaient sur la situation, sur la misère, sur qu'est-ce que c'est que le colonialisme. Et donc, petit à petit, on s'est imprégné de ces enseignements. Donc, j'ai commencé à devenir jeunesse du PPA. La jeunesse du PPA à 15 ans, à cause de ce qui s'est passé à Séti, Frérata, tout ça. C'était terrible aussi ce qui s'est passé là-bas. C'était vraiment une... à Frérata, il y a un précipice de 150 à 200 mètres où on balançait les gens vivants, où ils arrivaient en bas morts, bien sûr. Là, c'était terrible. Et donc, on a commencé comme ça. D'ailleurs, dans mon village, il y a eu le caïd, il y a eu un attentat. Il a reçu 47 balles avec sa traction avant. Il a eu de la chance, c'était pas des gens qui visaient bien. Il était tout juste blessé au bras. Il s'en est tiré, mais nous, ça nous a éveillés. Pourquoi qu'on a tiré sur le caïd? Parce que les bienfaits de la colonisation, entre autres, ceux qui disaient les bienfaits, on a une route. Cette route, on a plutôt, elle nous emmerdait qu'elle nous rendait service. C'est une route, il n'y a que le caïd qui a une voiture, et à 2 km avant qu'il arrive, il fallait sortir les bêtes parce qu'il ne faut pas déranger le caïd sur la route. Donc c'est la route du caïd, ce n'est pas une route pour nous. Ce qui fait que voilà, c'est un des bienfaits de la colonisation. Nous, on avait des bourricots pour transporter des choses, mais on n'avait pas besoin de la route, on n'a rien à transporter sur la route. On n'avait rien. C'était pour dire les bienfaits de la colonisation. J'ai pu quand même fuguer, je me suis sauvé. Évidemment, le vieux, heureusement, qui ne m'a pas empêché de me sauver parce que mineur, il pouvait faire. Il pouvait arrêter l'opération, ne pas pouvoir continuer mon trajet, mais je suis venu quand même en France. J'en avais assez avec le système colonial. J'ai fini même par me disputer un peu avec mon père. Je n'étais pas d'accord de rester là-bas, c'était la misère. D'ailleurs, j'ai jamais vu un toubib alors que j'avais 18 ans, malgré la peste qui est passée en 1944. J'ai fini par venir en France, j'avais 18 ans, j'étais encore mineur, en septembre 1948. Et là, il fallait se défendre pour pouvoir... Il fallait trouver du travail, trouver où se loger, tout ça. À Alger, j'ai laissé le soleil, Alger, la blanche, tout ça. J'arrive à la gare de Lyon, c'était vraiment triste. Je voyais les murs noirs, il y avait un brouillard. Il commençait à faire froid. Je dis, mais c'est ça la France, c'est pas possible. Alors j'ai vraiment été étonné de voir comment que c'est Paris. En fin de compte, après, évidemment, on s'adapte, on découvre des choses. Paris cache beaucoup de choses ensuite, quand on grandit. Il y a beaucoup de choses à voir, la littérature, le théâtre, le cinéma, beaucoup de choses sur le plan culturel, petit à petit. Cette journée, pour moi, c'était le soir, le gars pour qui j'ai payé la cotisation au FLN, il est venu me dire, voilà, demain, on manifeste au quartier latin, et à telle heure, il faut être là-bas, il ne faut pas prendre même pas un canif sur soi, c'est une manifestation non violente. Alors, évidemment, personnellement, je savais qu'il allait y avoir du grabuge. J'étais un peu réticent, mais je suis quand même allé. Et là, ce jour-là, d'ailleurs, j'avais une réunion à la FSGT rue de la Bruyère. Et c'est de là-bas que je suis descendu direct à la marche. Comme c'était des sportifs, donc j'étais en tenue en short, tout ça. Et quand je suis arrivé sur le pont là-bas, quand on a commencé à marcher, à peu près quelques... À peine qu'on a franchi le pont, que la rencontre s'est opérée avec la police. La police, elle est venue déchaîner et a commencé le massacre. C'était inouï. C'était vraiment de toute ma vie, je me rappellerai toujours de ce carnage vraiment dégueulasse. C'est sauvage. C'est vraiment une sauvagerie inouïe. Ben, pour pouvoir se tabasser des gens qui avaient les mains dans les poches et lui leur donner les coups sur la tête. Et en plus, il y a des endroits comme ils ont tiré même à la mitraillette, ils ont tué des gens. Et là, du côté de Nanterre, du côté un peu partout, ils ont jeté les gens à la Seine, ils ont massacré. C'était affreux, vraiment, c'était affreux. Des centaines de morts quand même. Le lendemain, le papon, le traître papon, il disait qu'il y a eu 3 morts. Alors, c'était jusqu'à ce jour, on ne sait même pas combien qu'il y a eu de morts, parce que ceux qui sont jetés dans la Seine, qui sont morts, qui ne savaient pas nager, qui n'ont pas pu s'en sortir, jusqu'à maintenant, c'est des... Les parents habitent en montagne quelque part, ils ne savent même pas à qui réclamer, et bien ils sont partis. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore combien il y a eu de morts. On a mis un panneau pour rappeler le 17 octobre 61. On n'a même pas mis les armes qu'on a utilisées. Jeter à la Seine, tirer dessus avec des armes à feu. Les manifestants, ils avaient le droit à tout, à tous les moyens pour se faire tuer. Voilà qu'est-ce qu'on gagne quand on ose réclamer son indépendance. Il fallait rester sous la tutelle du colonialisme, de la misère du colonialisme. Et quand on bouge, ben, on reçoit les bienfaits de la pacification. 60 ans après, est-ce que les livres parlent, est-ce que le cinéma, est-ce que les informations, est-ce que les écoles enseignent cette journée du 17 octobre? Non, il n'y a rien, on veut l'ignorer comme si elle n'a pas existé. C'est quand même malheureux qu'on n'a même pas voulu mettre ce mémorial à la vue et à la lecture du public. On l'a mis sur le côté avec des lettres toutes petites, avec la couleur qui cache un peu les lettres. C'est vraiment... on ne peut pas faire mieux que d'ignorer ceux qui sont morts. Ce n'est pas pour les représenter aujourd'hui. Parce qu'on pouvait faire mieux que ça quand même. On pouvait faire un panneau plus lisible, plus grand. Mais disons que c'est mieux que rien. Et jusqu'à la fin de nos jours, on se rappellera de ce massacre qui a été fait ici.
Et 8 ans après ce massacre du 17 octobre 1961, voici ce que disait un jeune Algérien.
En France, pour nous, la vie, en tant que Nord-Africains, pour l'instant, les choses commencent à se détériorer. On n'est plus vu de la même façon qu'avant, jadis, je vous dis. Un Français vous cause, il vous dit « Mais monsieur, vous êtes là, vous avez du travail, nous nous sommes Français, nous sommes en chômage, vous nous piquez notre boulot, vous avez voulu votre indépendance, foutez le camp chez vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» Maintenant, vous savez, des trucs comme ça, on les entend assez souvent. Et puis ça fait mal, vous savez, surtout des gens qui ont vécu ici. Moi personnellement, ça fait 8 ans que je suis en France et que je vous jure qu'au départ, quand je suis venu, c'était pas pareil. La presse quotidienne ne parle que du mal de nous, toujours, c'est ça. Ce qui fait que ça retourne l'opinion des gens contre nous. Vous voyez, on entend toujours un Algérien a tué, un Algérien a volé, un Nord-Africain a fait. On dit même pas un Algérien parce qu'on dit un Nord-Africain maintenant. Quand il y a quelque chose à faire connaître à tout le monde, on dit un Nord-Africain, on les met tous dans le même sac et pof.
54 ans après, le racisme est toujours présent et sans complexe. Le racisme est profondément ancré dans les mentalités. On en voit tous les jours la preuve dans les discours politiques, sur les télévisions aux ordres, dans les journaux. Et notre dernier gouvernement a fait fort en nommant Valls à l'outre-mer. C'est les Becquet qui sont contents. Voici l'interview de deux membres de la famille Ayotte, Becquet des Antilles.
En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF.
Monsieur Ayotte est un Becquet.
C'est facile à mener, les ouvriers noirs ?
Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut.
Vous êtes un Becquet, qu'est-ce qu'un Becquet ?
C'est ce qu'il y a de mieux. Les Becquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies.
48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté.
Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'arbaudi.
Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sort avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je vous passe ça bien, c'est pas... Non, on a voulu préserver la race.
Et il en est de même en Nouvelle-Calédonie.
Mais dis-moi toi, pas de veillard de branler les couilles, hein. C'est pas les canards qui ont commencé à péter les couilles aux blancs, hein. Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas de veillard rien de branler, là, hein. Pas les canards qui vont faire chier les blancs. Hein, allez, bouge-toi le cul, ça, enculé.
Ah, merde.
C'était un extrait de l'émission Striptease. Mes pensées vont aux Kanaks, aux Antillais, actuellement enfermés, pour avoir eu l'audace de contester la politique autoritaire, violente et raciste de ce gouvernement que protège la majorité de nos journalistes. La plupart de nos politiques sont outrés par l'outrecuidance de ces colonisés ou anciens colonisés qui se permettent soit de vouloir leur indépendance, soit de vouloir les mêmes droits qu'un citoyen français de souche, soit de s'offusquer d'être en butte aux propos racistes, etc., etc. Le président algérien Tebboune, en réaction au mépris de la France, affirme son indépendance et son droit au respect.
Le respect total de l'État algérien. La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Aujourd'hui, l'Algérie est forte grâce à la puissance de son armée et à son peuple courageux. L'histoire ne peut pas être changée et nous ne pouvons pas changer l'histoire juste pour faire plaisir aux autres.
En 1960, année de ma naissance, les murs d'Alger se couvrirent de cette phrase « Un seul héros, le peuple ». Et c'est cela qui a guidé mon histoire biculturelle. L'émission se termine et je vous laisse avec l'ONB, l'Orchestre National de Barbès. Voici Alaoui. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Présenté par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.